Chers frères et sœurs, bonjour à tous, bonjour à toutes. Que le Seigneur vous bénisse, très heureux d'être avec vous encore pour étudier les Écritures et pour pencher nos regards sur deux chapitres extraordinaires du livre d'Ésaïe, les chapitres 34 et 35. Ils nous présentent deux destinées, deux chemins. Lequel de ces chemins prendrez-vous ? Je replace le contexte, la situation du peuple d'Israël sous le règne d'Ézéchias est encore le même. La menace assyrienne pèse toujours, elle est terrifiante, angoissante, elle sème dans les cœurs la panique et chacun cherche un refuge. Le refuge qui semble le plus sûr à vue humaine, c'est à ce moment-là l'Égypte. Mais le Seigneur dénonce cette option par la bouche du prophète Ésaïe. C'est une folie que de s'appuyer sur l'Égypte. Faites donc confiance à votre roi, le roi qui vient d'être présenté dans les chapitres 32 et 33. Le roi qui est fidèle, sûr, solide, et qui ne nous décevra pas. Nous vivons un temps de bouleversement. Et nous recherchons des sauveurs dans les appuis trompeurs que sont souvent nous-mêmes ou les hommes en général, l'argent ou la réussite, la beauté ou la force physique ou même la force de caractère. L'Éternel seul, notre roi, est digne de confiance. C'est tout étonnant, je trouve, que comme notre réflexe premier n'est pas de chercher notre secours en Dieu. Nous ne tournons pas vers lui tant que nous n'avons pas été déçus par tous les autres secours. En fait, pour appeler Dieu au secours et placer notre confiance en lui, eh bien, il nous faut nous repentir de nos fausses croyances. C'est comme si le peuple hésite encore à abandonner ses faux sauveurs, ses faux refuges et à véritablement faire confiance à Dieu. Alors Dieu présente deux tableaux prophétiques. Chapitre 34, la destruction des faux dieux et de ceux qui les suivent. Chapitre 35, la bénédiction du royaume de Dieu, sa paix, sa sécurité, sa prospérité, sa joie pour ceux qui placent en lui leur confiance. C'est comme si le prophète disait: voici où vous mèneront ces deux chemins. Lequel choisirez-vous ? On va voir dans un premier temps le contraste entre ces deux chemins. Dans le chapitre 34, les versets 5 à 7 parlent d'Édom avec sa capitale Botsra. Et il est cité, Édom est cité comme l'opposant archétype de Dieu et de ses desseins. C'est l'ennemi ancestral en fait, Édom, qui va être châtié. Mais le jugement s'étend sur toutes les nations orgueilleuses qui s'opposent à l'Éternel, au monde entier. Regardez le verset 1, chapitre 34, verset 1. « Approchez, nations, pour entendre. Peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, et elle est ce qui la remplit. Le monde est tout ce qu'il produit. » Voyez-vous ici, le jugement va atteindre le monde entier, pourra impliquer même les cieux. Regardez au verset 4, il dit « Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre et toute leur armée tombe comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe la feuille d'un figuier, comme ça, d'un instant. » L'image du livre roulé signifie vraiment, c'est la fin de l'histoire. De sorte que, clairement, ce qui est en vue ici, c'est le jugement dernier, c'est la fin du monde. Dans le chapitre 34, le vocabulaire est terrifiant. Ésaïe parle de, regardez avec moi, verset 2, il parle de colère de l'Éternel, il parle de fureur, il parle d'extermination, de carnage. Verset 3, il parle de mort, de cadavre, de puanteur, de sang. Il parle encore de dissolution, il parle de chute à trois reprises, verset 4, il tombe. Il parle d'extermination, verset 5, à nouveau de sang et de carnage, verset 6. Il parle de vengeance, de représailles, de désolation. Il parle de destruction, il parle le climat, il parle encore de vautours, il parle de cette période terrifiante qui est présentée ici. Dans tout ce contexte, il nous parle aussi de la végétation. La végétation présenterait tout ce qui peut tout ce que cette vie-là va produire. Regardez, il parle, la végétation ici parle d'épines, de ronces, de chardons. L'atmosphère, c'est une atmosphère de puanteur, de cadavres, de feu, de fumée. Il parle de poids brûlante, jour et nuit, il parle de soufre. Les habitants dans ce temps-là, il n'y a plus personne, sauf des chacals, des autruches, des animaux du désert, des chiens sauvages, des serpents, des vautours. Et pour combien de temps? La durée de cela? Regardez le verset 9. Les torrents d'Édom seront changés en poix, et sa poussière en soufre, et sa terre sera comme de la poix qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit. La fumée s'en élèvera éternellement, d'âge en âge. Elle sera désolée à tout jamais. Personne n'y passera. C'est la destination, la destinée éternelle qui est présentée ici. L'état qui va durer pour toujours. Ces deux derniers versets de chapitre 34 souligne la certitude que le lecteur devrait avoir que ces choses arriveront parce que Dieu a parlé. Ce qu'il décrète par sa parole, son esprit le mettra en œuvre. Il le mettra en œuvre dans son pouvoir souverain. Verset 16, il dit « Consultez le livre de l'Éternel et lisez, soyez sûrs, ces choses-là vont arriver. » Dans le chapitre 35, alors le vocabulaire est tout autre. Voilà le contraste. Ésaïe parle du désert qui se change en prairie verdoyante, de fleurs, de joie. Il parle d'abondance, il parle de fertilité. Dans le verset 2, il cite le Liban, le Carmel, le Saron. Ce sont des trois régions célèbres pour leur fertilité. Il parle encore de triomphe, de gloire, de magnificence, d'encouragement, d'affermissement. Il parle de consolation, il parle de sécurité, de salut, de guérison dans les versets 5 et 6. Il parle aussi de sainteté et encore de joie. La végétation, dans ce chapitre-là, c'est tout autre. À cause de l'abondance d'eau dont il est fait mention dans tout le chapitre, et on parle de ruisseaux, d'étangs, de sources d'eau. Il y a des joncs et des roseaux qui poussent, c'est-à-dire à l'endroit où c'était le repère des chacals, poussent des roseaux et des joncs, verset 7. Ils poussent les pieds dans l'eau. Il y a des fleurs en abondance, des narcisses. L'atmosphère est tout autre. Regardez, versets 1 et 2. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe. Et puis regardez le verset 10. Ils iront à Sion avec chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront et la douleur et les gémissements s'enfuiront. Voilà l'atmosphère ici, une atmosphère joyeuse de triomphe, de chants, de sécurité, de beauté. Les habitants, regardez les habitants, cette fois-ci c'est Dieu lui-même, la fin du verset 4. Il viendra lui-même à vous et il vous sauvera. Et puis, on voit fin du verset 9, ce sont les délivrés. Début du verset 10, les rachetés. Voilà les habitants de ce royaume. Les anciens aveugles, sourds, boiteux, muets, qui désormais voient, entendent, bondissent et chantent, comme le dit le verset 5 et 6. Les grands absents, ce sont les impurs. Regardez verset 8. Nul impur n'y passera. Et puis, les bêtes féroces ne seront pas non plus. Sur cette route, verset 9, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. La douleur et les pleurs, grand absent aussi, fin du verset 10, ils s'enfuiront. La durée est aussi éternelle. Verset 10, une joie éternelle couronnera leur tête. Quel contraste! Les conséquences éternelles du jugement décrites dans le chapitre 34 sont tout autant une composante indispensable de l'éternité future que les certitudes de la joie éternelle et de la vie éternelle qui sont décrites dans le chapitre 35. Au fond, c'est le bout du chemin qui nous est présenté ici. Les deux destinées, ce sont deux aspects des réalités éternelles. Et c'est pourquoi ces deux chapitres vont de pair. Le jugement ou la grâce. Après avoir vu le contraste, j'aimerais qu'on regarde la transformation. Vous aurez certainement remarqué que dans le chapitre 35, Ésaïe présente un désert qui reverdit et se réjouit. Un pays aride qui est transformé en un jardin. La désolation est changée en abondance. Il dit aussi que les yeux des aveugles et les oreilles des sourds s'ouvrent, verset 6. C'est-à-dire que il s'est passé quelque chose qui a changé le désert en un jardin. Et ce qui s'est passé, c'est ce qu'on trouve au verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Voilà ce qui rend la transformation possible. L'Éternel est venu et l'Éternel a sauvé. Oh, il y a des cœurs qui sont troublés par la perspective du jugement. Le mien était, avant que je connaisse le Seigneur, était troublé par la perspective du jugement, à cause des conséquences du péché. Il y a des cœurs qui sont découragés et des personnes qui sont apeurées, qui redoutent la venue de la mort et du jugement. Et ça, c'est très perceptible dans cette période de pandémie et d'incertitude. À cela, Ésaïe dit de la part de Dieu, verset 4, « Prenez courage ». Ne craignez pas, voici votre Dieu, voici sa rétribution. Il vient lui-même et il vous sauve. Comment est-ce qu'il le fait? Le jugement des pécheurs que nous sommes a lieu à deux endroits. Soit au jugement dernier, là où tous sont condamnés, c'est le chapitre 34, soit à la croix, où tous sont sauvés, ça c'est le chapitre 35, lorsque Dieu vient et nous sauve. Nous sommes tous des pécheurs. Et à cause de nos péchés, nous redoutons le jugement. Lorsque Jésus est venu et que le moment de la crucifixion approchait, voici ce qu'il dit dans l'évangile de Jean au chapitre 12 et au verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir, de la croix. Le jugement de ce monde a eu lieu à la croix. Jésus a reçu toute la colère de Dieu, de sorte que ceux qui se reconnaissent coupables, ceux qui se repentent et croient en Jésus-Christ, reçoivent le pardon et la vie éternelle. Et ça, c'est tout à fait à l'opposé de ce que nous méritons. Les miracles de guérison du Seigneur Jésus, pendant son ministère terrestre, que l'on peut lire aussi au verset 5 et 6, hein, « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. » C'est précisément ce que Jésus a fait dans son ministère terrestre. Tout cela n'était au fond qu'une préfiguration de la plénitude du royaume qu'il était venu inaugurer. Et l'accomplissement ultime à la résurrection des corps et dans la vie éternelle sera total. Parce que Jésus-Christ nous a sauvés, alors verset 5, vous avez vu, le verset 5 et le verset 6 démarrent avec ce « alors s'ouvriront les yeux des aveugles, alors le boiteux sautera comme un cerf ». Sinon maintenant, assurément dans l'éternité, il y a aussi beaucoup de poésie dans la description qui est faite de cette nouvelle vie. Au verset 7, le « alors » est sous-entendu. Le mirage se changera en étang. Où la terre brûlante se changera en étang. Là où il n'y avait que sécheresse, déception et mort, jaillit la vie. Jésus dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et je suppose que Jésus pensait à des passages comme ceux d'Ésaïe 35. Au verset 8 et 9, il est dit, alors, il y aura un chemin frayé. J'aime cela. Un chemin frayé, c'est un chemin par lequel quelqu'un est déjà passé. Jésus-Christ nous a précédés. Il nous montre la voie, une voie sainte, éloignée du péché. Elle ne sera fréquentée que par eux seuls, dit-il au verset 8. Eux seuls, c'est bien sûr les délivrés, les rachetés, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. C'est une route sûre. On ne peut pas s'y perdre. Vous y êtes en sécurité. C'est-à-dire, l'arrivée est certaine. Au verset 10, il parle de la joie éternelle qui couronnera leur tête. Voilà la transformation. Voyez-vous, ce que Dieu veut nous montrer ici, c'est qu'il transforme nos déserts en sources d'eau. Il change nos vies. L'application qu'on pourrait faire, j'aimerais en faire trois de ces passages. Réfléchissons un peu à la présentation, qui est peut-être un peu brutale, des vérités exposées dans ces deux chapitres. Et puis, essayons de trouver les implications dans nos vies. Si le jugement et la grâce sont des réalités éternelles, si nous sommes en route sur la voie sainte, alors notre façon de vivre ici-bas devrait en être affectée. En particulier, dans un temps de crise comme celui-ci. On devrait pouvoir montrer la vie nouvelle qui nous anime. En 1527, lorsque la peste bubonique a frappé la ville allemande de Wittenberg, Martin Luther, le réformateur, a refusé de fuir en lieu sûr, comme on lui demandait instamment. Au contraire, il est resté à Wittenberg et il a soigné les malades. Son refus de fuir a coûté la vie à sa fille Élisabeth. Mais il a aussi donné naissance au fascicule intitulé « Les chrétiens doivent-ils fuir la peste ?» Et dans ce fascicule, Luther y fournissait une argumentation claire de la réponse chrétienne face à l'épidémie. Voilà ce qu'il dit. « Nous mourons en tenant nos postes. Les médecins chrétiens ne peuvent pas abandonner leurs hôpitaux. Les gouverneurs chrétiens ne peuvent pas fuir leur district. Les pasteurs chrétiens ne peuvent pas délaisser leur congrégation. La peste ne dissout pas nos devoirs. Elle les transforme en croix sur lesquelles nous devons être prêts à mourir. » Fin de citation. Waouh ! On voit l'implication quand on possède une telle vie éternelle. Lyman Stone, un chercheur, a écrit un article intitulé « Le christianisme gère les épidémies depuis 2000 ans ». Et John Lennox, qui a écrit le livre « Le coronavirus, où est Dieu ?», cite un extrait de cet article qui dit ceci. « Si les chrétiens recherchent de bonnes conditions hygiéniques et sanitaires, ce n'est pas pour se préserver eux-mêmes, mais à cause de leur éthique. » Et leur éthique, c'est servir leur prochain. Nous souhaitons prendre soin des affligés, ce qui signifie avant tout de ne pas infecter les personnes en bonne santé. Les premiers chrétiens ont créé les premiers hôpitaux d'Europe. Il s'agissait de bâtir des endroits salubres pour y prodiguer des soins durant la peste. Fin de citation. Vraiment, je me réjouis de ce que plusieurs de l'Église ont continué à aimer et à servir leurs prochains dans des maraudes, distribuant vêtements, nourriture et réconfort aux plus vulnérables pendant cette pandémie. C'est parce qu'ils ont une vie nouvelle et éternelle qu'ils agissent de la sorte. C'est parce qu'ils ont une sécurité éternelle qu'ils agissent de la sorte. En Apocalypse, chapitre 12, verset 11, il est parlant de témoins de Jésus-Christ, il est dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. J'aime cette expression-là. Ils n'ont point aimé leur vie pour craindre la mort. Voilà une implication quand on possède cette assurance d'être en Jésus-Christ. En 1854, du haut de ses 20 ans, le prédicateur Charles Spurgeon a déménagé à Londres pour devenir le pasteur d'une église qui deviendra plus tard le Metropolitan Tabernacle. Spurgeon résidait à Londres depuis seulement 12 mois quand un cas sévère de choléra se répandit dans toute la ville. Spurgeon, relate comment, au milieu d'affreuses conditions, il prit soin de nombreux malades et leur rendit visite. Voilà ce qu'il écrit. « J'allais de maison en maison, toute la journée et parfois même toute la nuit. Là, j'y voyais des femmes et des hommes mourants, mais qui étaient, oh, si heureux de me voir. Alors que beaucoup craignaient d'entrer chez ces gens, de peur d'être frappés à leur tour par cette maladie incurable, nous qui n'avions aucune crainte de la sorte, finissions par y trouver des auditeurs heureux de nous entendre parler de Christ et de choses divines. » Voilà l'implication première que je voudrais relever. Quand on a cette certitude, quand on sait aussi qu'il y a un jugement éternel, on est prêt à faire en sorte d'aimer notre prochain, ou pas aimer notre propre vie au point de craindre la mort. Deuxième implication, c'est que si le jugement et la grâce sont des réalités éternelles, alors notre manière de partager l'évangile à nos proches devrait en être affectée. Nous craignons tellement d'offenser notre prochain que on parle peu du jugement qui menace ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. On aimerait cacher le chapitre 34 d'Ésaïe. C'est probablement aussi parce que nous occultons le jugement que si peu de chrétiens sont prêts à partir annoncer l'évangile au peuple non atteint. Mais quand on est saisi par cette pensée qu'il y a un jugement et que ceux qui ne connaissent pas Christ, ceux qui refusent de croire en lui, seront jugés. Mes amis, Ésaïe le prophète, il vient de passer 34 chapitres à annoncer le jugement à venir. Peut-être que vous avez trouvé ça long. Il met le peuple devant un choix en présentant d'une façon un peu percutante la colère de Dieu et sa grâce, le jugement et le salut, la désolation et la bénédiction. Mais vous savez, c'est aussi comme cela que Moïse, à la fin de sa vie, a présenté le choix au peuple d'Israël. En Deutéronome 30, verset 29, il dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort ». La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Jésus lui-même a présenté l'évangile de la sorte. En Matthieu chapitre 7 et au verset 13 et 14, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Sommes-nous aussi clairs dans la présentation de l'évangile à nos proches? Si Dieu n'est pas présenté comme un feu dévorant, comme un juste juge qui condamne le péché, comment les gens viendront-ils se jeter à ses pieds pour rechercher son pardon dans la repentance et la foi? Par ailleurs, si Dieu n'est pas présenté comme un Dieu plein de miséricorde, riche en bonté, et si sa présence n'est pas présentée comme ce qu'il y a de plus désirable, alors les gens viendront à Christ parce qu'ils ont peur de lui, mais ils ne l'aimeront pas pour ce qu'il est. Dieu est celui qui apporte la joie, l'allégresse, il fait fleurir nos vies. Il est celui qui met la vie là où il y avait la mort, l'abondance là où il y avait la misère, le courage et l'assurance là où il y avait la crainte et la terreur. Voilà ces deux aspects qu'il nous faut présenter, non seulement dans les mots, mais aussi au travers de nos vies. Troisième application que j'aimerais faire et dernière, ces deux chapitres-là, côte à côte, sont aussi une grande source de réconfort face au mal et à la souffrance. Notre monde est rempli de mal et de souffrance. On a besoin de réponses. Ces deux chapitres offrent une réponse. Le fait qu'il y a un jugement nous rassure sur le fait qu'il y a une parfaite justice. Au final, tout mal sera condamné. Dieu va redresser tous les torts. Mais également, Dieu va consoler les affligés. Nous n'avons pas simplement besoin de justice on a aussi besoin de consolation, d'espérance, de joie retrouvée. Et c'est ce qu'apporte ce chapitre 35. Quel chemin prendra le roi d'Israël, Ézéchias ? Nous verrons cela la semaine prochaine. Mais quel chemin prendrez-vous ? Nous sommes tous confrontés à cette question. Est-ce que nous allons prendre un chemin de confiance, d'abandon à Dieu, qui s'appuie sur sa parole, ou un chemin qui prend l'homme, la chair pour appui, qui regarde aux choses visibles ? L'un conduit à la vie, l'autre au jugement. L'un conduit à la joie, l'autre à la désolation. Nous avons tous deux théologies. Il y a celle que nous professons, celle qu'on a sur notre papier. Je crois dans un Dieu sauveur qui connaît et qui voit toutes choses, qui est gracieux, tout puissant et fidèle, un Dieu qui ne peut se renier lui-même, etc. Et puis nous avons une théologie réelle, celle que nous croyons véritablement. En fait, celle qui se reflète dans nos vies, que révèle nos vies et nos choix. Celle-ci, elle est souvent moins belle, moins catégorique, parce qu'elle est mêlée de nos craintes, de nos doutes, de notre difficulté à faire confiance à Dieu. Et Dieu sait cela. Et c'est pourquoi il dit au verset 3 et 4, « Fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point, voici votre Dieu, voici sa rétribution, il viendra lui-même et il vous sauvera. » Ira David Sankey a écrit ce cantique célèbre, « Seigneur, je n'ai rien à t'offrir, prends-moi tel que je suis. » Dans ce cantique, il montre merveilleusement que Dieu nous sauve, fatigués, pécheurs, faibles. Nous pouvons juste dire « Prends-moi tel que je suis ». Le dernier refrain dit « Prends-moi faible et pécheur, sans vertu ni vigueur. Ô mon Sauveur, rends-moi vainqueur et tel que je dois être. » Venez à Christ. Venez à Christ tel que vous êtes. Peut-être vous êtes comme un désert, vous êtes desséché. Venez, il déversera ses fleuves d'eau vive, ses torrents d'amour. Simplement, venez, placez votre confiance en Christ. Maintenant, que Dieu vous bénisse, prions. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier pour ta parole, elle est la vérité, elle est sûre, tu nous parles d'une destination éternelle. L'une pour le jugement, l'autre pour la vie véritable, l'une pleine de détresse, de terreur, l'une pleine de réjouissance, d'abondance, de félicité, de consolation. Seigneur, si ce n'était pas vrai, tu ne l'aurais pas écrit. Seigneur, nous, notre Dieu, nous voulons te prier pour que ces deux vérités impactent notre vie, notre manière de vivre. Si nous ne possédons pas encore, que nous puissions crier à Dieu et venir tel que nous sommes, tout tremblants, devant lui et lui demander de sauver notre âme, de pardonner nos fautes. Et si nous l'avons déjà, nous te prions, Seigneur, pour que cette vie véritable soit visible, pour ne pas craindre même la mort, mais servir et aimer notre prochain. Seigneur, nous te prions pour que ces vérités impactent notre manière de présenter ton évangile. Qu'on soit rempli d'avertissements, mais aussi d'encouragement à venir à Jésus-Christ. Que Christ soit présenté comme le meilleur et le ciel comme la plus belle destination qui soit. Seigneur, nous te remercions de ce que par ce jugement et par ta grâce, eh bien aussi, tu nous offres une pleine consolation pour nos vies. Nous te bénissons et nous te prions pour que tu soutiennes encore toute ton Église, que tu la portes dans ces temps d'épreuves et que tu te révèles à elle pour qu'elle s'agrandisse en nombre, mais aussi en zèle, en foi et en amour les uns pour les autres et pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Merci Seigneur notre Dieu, par Jésus-Christ. Amen.